Un été avec Bernstein, Emmanuel Franc, France Musique.
Bonjour à tous. Nous sommes encore aux années d'après-guerre, ces années où Léni jongle entre sa joie de vivre et sa détresse après la découverte des camps d'extermination dont il parle peu dans sa correspondance. Mais nous allons voir comment son engagement pour Israël sera sa réponse. En même temps, il continue à faire preuve de sa légèreté coutumière au point d'écrire en 1948 des fanfares dédiées aux chiens de ses amis. En juin 1947, il a noué ses premiers contacts avec Paris.
Curieusement, la première fois que j'ai dirigé en Europe, quand j'étais tout petit gosse, c'était dans 40... Je ne veux pas dire, 46, juste après la guerre. C'était avec l'Orchestre National de Paris, de radio. Premier concert en Europe. Il y avait une heat wave, une vague de chaleur horrible à Paris, et nous avons travaillé presque nus, tout l'orchestre. C'était ravissant.
Il donne sa symphonie Jérémia avec l'Orchestre National de France et écrit à Hélène Coates. L'Orchestre National de France est angélique. Ils ont appris Jérémia en une seule répétition. Ils sont si rapides, bons et dans une telle amitié avec moi que j'ai annulé aujourd'hui la dernière répétition. Il a rencontré Nadia Boulanger et a séduit son entourage en se mettant au piano et en les régalant de chansons de Debussy et Ravel. Nadia Boulanger est la marraine de sa famille musicale américaine. Elle a eu pour élèves Aaron Copland, Elliot Carter, Walter Piston, Virgil Thompson, Mark Blitzstein et David Diamond. Léni leur semble naïvement heureux comme un Américain. En fait, il est plutôt circonspect.
La première fois que j'étais ici, c'était après-guerre, 46, 47. Et j'ai eu toujours l'impression que ce qui intéressait au plus les Français de la musique n'était pas la musique même, mais l'opportunité de la discuter après, dans les journaux, dans les revues. Et que le moment le plus important dans un concert, c'est l'entracte pour discuter.
Et vous le
pensez ? Les Français aiment à la folie parler. C'est un pays littéraire, c'est un pays de langue. On parle. On discute, on lutte. Bernstein, il fait Rachmaninoff, Berlioz. C'est toujours comme ça. Mais j'avais toujours l'impression qu'on aimait vraiment la musique même. La prochaine fois que je viens à Paris, c'est comme une audition. Il faut recommencer. Si cette histoire vous ennuie, nous allons la recommencer. Il était un petit navire. C'est toujours la même chose.
C'est aussi un voyage romantique. Léni a retrouvé son amourette du moment, l'actrice Hélène Adler, à Paris. Ils vont chez Maxim's, rendez-vous parisien obligatoire à l'époque. Il a acheté un volume de Baudelaire et bras dessus, bras dessous, il se promène aux Tuileries en traduisant ses poésies à haute voix. C'est charmant. Mais Hélène Adler veut lui faire découvrir les existentialistes. Il préfère acheter un guide des Barguets de Paris et se passionne pour la gastronomie, au point d'écrire pour Jenny Tourelle « La bonne cuisine », une œuvre inspirée par des recettes de cuisine française comme « Le civet à toute vitesse ». Put it in a pot or in a casserole or a bowl with all its blood and with its liver mashed. Take half a pound of breast of pork, finely cut as fine as possible. Add little onions with some pepper and salt, say 25 or so. A bottle and a half of vin rouge. Boil it up, don't waste a minute. On a very hottest fire, then boiled a quarter of an hour or more. The sauce should now be half of what it was before. Then you carefully apply a flame, as they do when they order chorizo from me. After the flame is out, just add the sauce to half a pound of butter and flour and mix them together. Léni se délectera toujours du répertoire français.
On commence par l'alborada, n'est-ce pas? Vous connaissez ce morceau naturellement, hein? Très marqué, les accents, et avec l'effet de trois. Naturellement en deux, mais pa, ta, plus, pa, tu, pa, ta, pi, ta, comme ça. Un, et. Et sans presser. Trop tard. Lisons.
Mélanie est surtout tellement américaine. Au point qu'Hollywood l'a approché à plusieurs reprises. Depuis 1944, de toute façon, il est le bienvenu à Los Angeles, puisqu'il a fait un triomphe au Hollywood Bowl avec Gershwin. Puis, la Cité des Rêves s'intéresse à lui, mais en fait, davantage au beau gosse qui séduit tout le monde qu'au musicien. Il passe un test pour jouer Tchaïkovski, personnage si proche de Léni que cela frise la faute de goût. Greta Garbo serait une Madame von Meck, la protectrice amoureuse et malheureuse du compositeur. Léni apprend son texte pour l'essai et se sent si ridicule et déplacé qu'il renonce. S'il peut s'identifier à Tchaïkovski, c'est face à la partition et à un orchestre, mais pas devant une caméra. Trêve de légèreté, le fait marquant de l'année 1947 a été sa découverte de la Palestine. Il s'y rend en avril, accompagné de son père et de sa sœur. L'orchestre fonctionne comme un kibboutz. Son histoire est d'ailleurs impossible à séparer de celle d'Israël. Il est né en 1936 et s'est constitué avec les musiciens qui fuyaient le nazisme en Allemagne et en Autriche. Son tout premier concert a été dirigé par Toscanini, dont il reste un fragment. Léni écrit à Serge Koussevitzky « Il y a une résistance et une dévotion extraordinaires en ce peuple. Ils ne laisseront jamais se faire reprendre cette terre sans mourir d'abord. Ce pays est beau au-delà de toute description. » Helen Coates « Papa est aux anges, il aime chaque minute. La situation est tendue et imprévisible. L'orchestre est bon et a crié son enthousiasme dès la première répétition de ce matin. J'ai accéléré le tempo aujourd'hui. » pour couvrir le bruit des explosions en dehors. Une petite archive, même si elle est tardive, nous raconte bien comment il se donne corps et âme à l'orchestre, parce que, dit-il, il se sent plus utile en Israël que partout ailleurs. Il fait un concert dans un kibboutz. Le podium est posé sur des parpaings, la scène brinque-ballante, face à 3500 personnes qui sont venues le voir de loin. En 1947, ce sont les chefs européens qui viennent le plus souvent diriger en Palestine. Or, Léni parle hébreu et les musiciens le suivent les yeux fermés. À la fin de la semaine, la direction de l'orchestre invite Léni à revenir pour février et mars en lui faisant une proposition. Qu'il vienne 3 mois par an pour assurer une direction artistique. Il déciderait des programmes, des solistes et des chefs invités. Léni est encore une fois emporté par son enthousiasme, mais peut-il s'engager? Il dirige déjà le City Symphony à New York. Koussi va partir de Boston et voudrait qu'il lui succède. Il veut du temps pour écrire. Bref, il est enragé de ne pouvoir tout faire. Thank you. L'année suivante, avant de revenir en Israël, Leni est invité à Vienne et Munich. Rubinstein et Stern refusent de se rendre en Allemagne. Menuhin y joue, et même avec Furtwängler. Et Leni l'entend dire « Je veux garder vivante la culpabilité et la repentance des Allemands ». Alors lui aussi accepte d'y aller. C'est Scholti qui l'a invité au Munich Opère. Il joue la seconde symphonie de Schumann. Un musicien de l'orchestre lui aurait dit « Il y a peut-être deux chefs allemands capables de jouer Schumann aussi bien que vous. Ils ont tous les deux 80 ans. Great compliment. » Mais Vienne vire au cauchemar. Précisons bien que Leni dirige le Symphony Orchestra de Vienne, pas le Philharmonique. En tout cas, il est prévu qu'il donne Jérémia, mais l'orchestre est si hostile qu'il est obligé d'y renoncer. Leni écrit à Hélène Coutts « Je ressens le nazisme à chaque coin de rue. Ils veulent du Bach, du Schumann et du Mozart, ce qui est stupide. Mes rapports avec cet orchestre, c'est que 60% y est nazi et toute la ville suit. » Quand on pense au succès qu'aura Leni, plus tard avec le Philharmonique, on reste stupéfait de la réaction de la presse autrichienne. « Ce fut un événement sportif, » dit-elle. « Monsieur Bernstein conduit comme un boxeur. » Oui. Nous sommes bien en 48 et un journaliste autrichien ose parler d'un chef d'orchestre juif américain en ces termes. Il va jouer dans un camp américain pour distraire les soldats, mais surtout il dirige le Jewish Representative Orchestra, formé avec les musiciens survivants de Dachau, libérés depuis 1945. Il y a beaucoup de juifs allemands qui ont tout perdu et désirent aller en Palestine. Ils sont bloqués en camp de transit à cause des quotas d'immigrés imposés par les Anglais. Et c'est à ce moment que la nouvelle arrive. L'indépendance d'Israël est proclamée le 14 mai 1948. Le lendemain, les États arabes voisins entrent en guerre.
Au terme d'un mandat qui a duré un quart de siècle, l'Angleterre, en la personne de son haut commissaire, le général Sir Alan Cunningham, abandonne la Palestine à son destin. Sur l'aéroport d'Haïfa, le général prend congé des représentants des communautés juives et arabes de la ville, un instant réconcilié pour cet adieu. Pour la population juive de Tel Aviv, un grand rêve se réalise soudain. Une nouvelle nation vient de naître. Et dans une salle exiguë où se pressent les membres de l'Assemblée législative, le Premier ministre de l'État d'Israël, M. David Ben-Gurion, proclame l'indépendance du pays et le déclare ouvert à tous les Israélites du monde.
Septembre 1948, l'orchestre de Palestine est rebaptisé Israël Philharmonique. Peu après, Leni arrive pour une tournée. Avec l'orchestre, il voyage à travers le pays en bus blindé, les instruments en soute. 40 concerts en 60 jours. On parle de lui comme d'un messie musical. Parfois, ils entendent les feux d'artillerie durant un concert. À Rehovot, Leni est appelé en plein concert par un régisseur alarmé qui l'avertit d'un imminent raid aérien. Leni retourne à sa place et continue son concert comme si de rien n'était. Mais il avoue « Je n'ai jamais joué un tel adagio. Je pensais que c'était mon chant du cygne. » Il joue du piano dans les hôpitaux, donne des concerts pour les militaires au front et il écrit encore à Koussevitzky. Croyez-moi, ça se finira bien. Il y a trop de foi, d'esprit, ça ne peut pas finir autrement. Mais le concert qui va faire date est celui du 19 novembre 1948. L'ONU demande aux Israéliens de se retirer de Beersheba, une ville perdue au milieu du désert de Negev. Les troupes désobéissent et restent sur place. Le lendemain, Leni et 35 musiciens arrivent dans leur bus blindé. Dans le désert, un creux archéologique sert d'amphithéâtre. Une scène y est hâtivement construite. Les résidents locaux, les blessés de l'hôpital, arrivent en brancard et tous les soldats en faction. Il est 3h30 et bientôt 5000 personnes sont là. Et Leni enchaîne, dirigeant du piano, le premier concerto de Beethoven, la Rhapsodie in Blue de Gershwin et le concerto numéro 15, que chez le 450 de Mozart. Il s'excite tant au clavier et à la baguette que sa chaise glisse dangereusement sur le bord de la scène et qu'un musicien doit la retenir à deux mains pour qu'il ne tombe pas à la renverse de l'autre côté de la scène. Au même moment, les Égyptiens font une reconnaissance aérienne et constatent un tel rassemblement qu'ils décident de rapatrier immédiatement les troupes qui encerclaient Jérusalem, la ville était quasi asphyxiée, pour les redéployer dans le Négev. Jérusalem est désenclavée. La musique, comme arme non violente, voilà un fait de guerre qui plaît à Leni. Il le sait maintenant, il reviendra tous les ans.
Summer with Leni, Emmanuel Franc, France Musique.
Dès qu'il rentre à New York, Leni reprend sa course folle, après le temps et l'énergie, ce qu'il exprime très bien dans une courte composition, Prélude, Fugue and Riffs. Thank you. Pendant la guerre, Leni s'était engagé pour la Ligue antifasciste. Ses meilleurs amis, comme Copland et Blitzstein, seront bientôt sur la liste de McCarthy. Or, en 1947, une commission temporaire, qui deviendra très vite permanente, est chargée de traquer les activités anti-américaines, autrement dit, la chasse à tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à des communistes. N'importe qui pouvait être emprisonné sur simple dénonciation. Ici, Gary Cooper, qui ne lâchera jamais un mot.
Well, I have turned down quite a few scripts because I thought they were tinged with communistic ideas. They haven't attempted to use me, I don't think, because apparently they know that I'm not very sympathetic to communism.
There has been a small group within the Screen Actors Guild which has consistently opposed the policy of the Guild board and officers or the Guild itself, as evidenced by the vote on various issues. That small clique has been referred to, has been discussed as more or less following the text of the movie.
Avec Lorraine Bacall, Humphrey Bogart, Henry Fonda, Bette Davis, Gene Kelly, Catherine Hepburn, Billy Wilder et tant d'autres, Leni participe au comité qui rappelle que le premier amendement déclare garantir la liberté d'expression, la liberté de la presse, le droit des citoyens de se réunir pacifiquement et d'adresser à l'État des pétitions pour obtenir réparation de torts subis. Leni intervient à la radio pour accuser la commission à la tête de la chasse aux sorcières de violer la Constitution. Le FBI commence à constituer un dossier contre lui qui fera bientôt 700 pages. En première mesure de rétorsion, il se fait momentanément confisquer son passeport en 1949. Leni revoit Félicia Montalegre. Ils envisagent de se marier. Et il y a de mauvaises raisons à ce projet de vie rangé. Depuis janvier 1947, le bruit court que Koussevitzky doit partir de Boston. L'annonce d'un futur mariage n'était peut-être pas complètement étrangère à la possible nomination de Leni. À l'époque, c'était une façon d'éloigner la presse à sensation de la vie aventureuse du chef. N'oublions pas que son ballet fac-similé a été censuré à Boston juste à cause d'un baiser jugé trop sensuel sur scène. Et l'establishment bostonien ne voit en Leni, avec son amour du jazz, ses musiques pour Broadway, sa jeunesse exubérante, que paillettes, bien trop vulgaires et loin de l'autorité bourgeoise qu'incarne la ville. Il vient pourtant d'enregistrer magistralement avec le symphonique de Boston.
I'm sorry, the Boeing still isn't right. You don't make enough crescendo on the up bow, and you don't wind up short enough. Doria! You see? One bar before 33. Good! Thank you. sound bows are too short. Everything pesante and long as you can make it repeating the down bows. 36.
Tout semble presque dans la poche, et non. Un Français semble à la ville plus en phase avec son image. C'est Charles Münch. Du coup, Lenny peut accepter la direction artistique de l'orchestre de Palestine. Mais surtout, il se remet à écrire. Cela fait des mois qu'il a commencé sa deuxième symphonie, si proche de son état d'esprit. Il s'agit de l'âge de l'anxiété. Il s'appuie sur un poème de Winston Hugh Auden, qui a obtenu le prix Pulitzer en 48, tant il reflétait l'inquiétude des années d'après-guerre. On y suit quatre étrangers solitaires, trois hommes et une femme, qui se rencontrent à New York pendant la guerre. Ils passent la nuit ensemble, méditent sur leur vie et la condition humaine, leur quête de la foi et du sens de la vie, se séparent à l'aube sans avoir obtenu de réponse à leurs questions. Il y a un prologue où les quatre personnages en proie à l'anxiété se rencontrent au fond d'un bar. Puis Lenny les fait soliloquer autour des sept âges de la vie, de la naissance à la mort. Il enchaîne ainsi des variations et chacune reprend le thème de la précédente.
Thank you.
La soirée continue, les personnages s'alcoolisent et dérivent sur les 7 étapes dédiées à la recherche d'un bonheur premier. Puis ils se lamentent sur l'impossible unité de l'homme et de Dieu. La cinquième partie a pour titre « Masque ». La petite bande bien éméchée va maintenant s'achever chez le personnage féminin Rosetta, où une histoire d'amour débute et s'achève désespérément en un jazz frénétique, un bebop symphonique. Dans l'épilogue, l'aube se lève et chacun retourne à sa vie quotidienne. Le pianiste est constamment présent Et pourtant, l'âge de l'anxiété n'est pas un concerto. Le pianiste dans cette œuvre symphonique est un personnage à part entière, une sorte d'observateur désabusé. Et l'aspect programmatique est clairement revendiqué par Ligny lui-même. Mes compositions sont dans un sens ou un autre des œuvres théâtrales. Quant aux autres, en tout cas pour la plupart, elles comportent une base dramatique évidente. Cette découverte a été une illumination. Où ça me conduira, je ne saurais le dire. La découverte des camps, l'angoissante situation de ses amis en Israël, a plongé Ligny dans un désarroi plus profond qu'il n'y paraissait. Pour le fuir, il n'a cessé de courir d'une passion à l'autre et d'un concert à l'autre avec les plus grands orchestres américains. Mais l'âge de l'anxiété décrit très bien ce qu'il ressent profondément. Une fois l'œuvre achevée, il s'essouffle et bientôt s'effondre. L'asthme le met KO. Il y a bien peu de photos de lui sans cigarette. Le clavier de son piano a d'ailleurs conservé la cicatrice d'une brûlure. Manque d'oxygène, manque de temps et pour une fois manque d'énergie, Ligny étouffe et annule les concerts. De plus, comme il a demandé en vain de meilleurs financements pour le New York City Symphony Orchestra, il démissionne au bout de 3 saisons. Enfin, il revient sur ses engagements auprès de l'Orchestre d'Israël. Il justifie son choix en disant qu'il s'est fixé d'écrire une œuvre par an et qu'il servira mieux Israël en faisant son job à travers le monde.
One thing I would like is to have the tam-tam already sounding more at vif. Pardon me? No, at the beginning. At vif, you begin so softly that when the piano stops, we don't hear you. Begin the crescendo earlier. I know, it begins pianissimo, but begin the crescendo subito, yeah? 11, please, everybody. 11. No. This comes too soon. You have piccolo. 1, 2. Da-ga-da! 11. It's the same tempo, piccolo. Number 6, please.
Ligny veut se recentrer, écrire et défendre les œuvres nouvelles. Alors, à la même période, il s'attaque à la création de Turangalila à Boston le 2 décembre 1949. Olivier Messiaen écrit à Ligny : J'ai 41 ans et j'ai mis dans cette symphonie toutes mes forces de l'amour, d'espoir et de recherche musicale. Mais je sais que vous êtes un homme de génie et que vous allez la diriger dans le sens que je ressens.
Very vibrato and piano. Save the book. Only the strings, please. Once without piano, sans piano, mademoiselle, et mais avec onde. Tender sound. Two.
1950, un peu avant que sa vie ne bascule vers la grande aventure qui va le rendre si célèbre, il compose une toute petite comédie musicale oubliée de tous, Peter Pan, l'histoire de ce jeune garçon qui ne vieillira jamais. Mélanie a 33 ans. Et avec Félicia Montalegre, cela fait 5 ans qu'ils n'arrivent pas à se séparer. Alors, ils se marient.
She herself was tremendously beautiful.
Jamie, la fille de Leonard Bernstein.
Elegant and funny and...
Elle était aussi extrêmement belle, élégante et drôle, et un peu espiègle. Elle pouvait aussi être incisive. Elle était la parfaite partenaire pour mon père, parce que mon père avait toute cette énergie, cette exubérance. Elle avait aussi cette énergie, mais avec tellement de style. Elle avait naturellement le sens de l'étiquette et elle savait toujours à quel moment lui dire « Lenny, tu ne dois pas faire ça ». Le sujet peut paraître anecdotique, pas vraiment. Il s'agit pour eux d'inventer une vie très singulière, où Lenny restera lui-même. La vraie question est, quel chef et quel compositeur aurait été Leonard Bernstein s'il ne s'était pas senti libre? Il voulait tout, aimer les femmes, les hommes et aussi toutes les musiques. Félicia l'a très bien compris quand elle lui écrit peu après leur mariage. Premièrement, nous ne sommes pas engagés à une peine à vie et rien n'est irrévocable, pas même le mariage. Deuxièmement, tu es un homosexuel et tu peux très bien ne jamais changer. Tu n'admets pas la possibilité de mener une vie double, mais si ta tranquillité d'esprit, ta santé et tout ton système nerveux dépendent d'un certain mode sexuel, que peux-tu faire? Troisièmement, je suis prête à t'accepter tel que tu es, sans être une martyre ou me sacrifier sur l'autel de Leonard Bernstein. Essayons de voir ce qui se passe si tu es libre de faire ce que tu veux, mais sans culpabilité et sans aveu, s'il te plaît.
I think my mother and my father were way ahead of their time in many ways. And my mother especially was...
Mon père et ma mère étaient très en avance sur leur temps de plein de façons, et ma mère particulièrement. Elle a trouvé le moyen d'adapter son style de vie d'une manière qu'aucune femme de cette époque n'aurait pu imaginer. Elle savait que mon père était gay ou bisexuel. Je suppose qu'il était bisexuel, puisque je suis là pour le prouver, et ma mère s'en est accommodée, ça a marché comme ça. C'était des adultes et ça a marché. Je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé, c'était leur affaire, mais ils étaient clairement dévoués l'un à l'autre.
Thank you.
Le soir de leur mariage, ils montent dans la décapotable de Lenny, font des signes d'adieu. Des photographes amis flashent leur éclat de rire. Ils partent en voyage de noces. Enfin, pas tout à fait pour Lenny, car il n'a pu s'empêcher de remplir sa valise de papier à musique. Pour écrire quoi ? Vous le saurez la semaine prochaine. C'était Un été avec Bernstein, une émission d'Emmanuel Franc. Merci à Éric Lancien qui l'a réalisée, à Françoise Monteil qui m'a aidée à la préparer. Merci à Bernard Loupias pour les traductions, à la technique Jean-Michel Bernot. À samedi prochain.